Donc moi je m'appelle Philippe Villemus, effectivement, je suis né à Sète en fait, donc je suis du coin et j'ai fait mes études à Font-Romeu. Donc je suis un vrai languedocien roussillonné, quoi. Et j'ai passé mon bac à Perpignan, je fais ma prépa HEC à Joffre. Je vais vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre, il faut que je vous parle malheureusement un peu de moi. Donc moi en fait je suis plutôt économiste et manager de formation, et j'ai fait ma carrière professionnelle après avoir fait HEC. J'ai travaillé dans une société américaine qui vendait des nettoyants ménagers, des couches culottes dans la vente et le marketing. Puis après j'ai travaillé pendant 7 ans et demi dans une autre entreprise américaine, dans le chocolat, les glaces, les aliments pour animaux. Alors j'ai travaillé et vécu en France, en Allemagne et en Angleterre. Et après 11 ans de parcours dans l'entreprise, j'ai rejoint l'organisation de la Coupe du Monde de football 98. Et pendant 5 ans, j'ai été le bras droit de Michel Platini. Vous ne vous connaissez pas parce que lui, il fallait bien que quelqu'un lui porte ses valises et lui écrive ses discours. Et le forme, c'était moi. Donc j'ai été pendant 5 ans son bras droit. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de balle. Et je suis fasciné par les jeux de balle en général, qu'elles soient rondes ou ovales. Et grâce à la Coupe du Monde de football, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans le foot. J'ai eu à ma disposition une équipe assez nombreuse. Et on a fait travailler des archéologues, des historiens, des psychanalystes, des psychologues, qui ont amassé une somme de documents phénoménales sur tous les jeux de balle, dont le football et le rugby. Et après, j'en ai fait des livres. Quand j'ai quitté la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, je suis parti chez L'Oréal, aux États-Unis, au Canada et puis en Italie. Donc j'ai beaucoup voyagé dans tous les pays. Et depuis 1991, chaque fois que je voyage, chaque fois que je lis un livre qui parle d'un jeu de balle, je collecte certains documents et je vous les montrerai à la fin, parce que je vais vous raconter des choses qui paraissent incroyables, mais je vous montrerai les preuves après de ce que j'avance. Alors, on va parler rugby. En fait, on va pas beaucoup parler du sport en lui-même, on l'évoquera bien sûr, mais je vous invite à faire un petit voyage dans l'histoire et dans l'espace. Et ce voyage dans le temps et dans l'espace va nous permettre de répondre à des questions assez incroyables. Pourquoi les hommes, depuis presque 5000 ans avant Jésus-Christ, jouent à des jeux de balle et en particulier jouent au rugby ? Pourquoi dans toutes les civilisations, quelles que soient les religions, quel que soit le degré de développement de ces civilisations, on a toujours joué à des jeux de balle, dont le rugby. Pourquoi le rugby est devenu, avec le foot, un sport presque planétaire? J'ai étudié aussi les symboles. Pourquoi la balle elle est ovale? Pourquoi le terrain il est rectangle? Pourquoi il y a un H pour le rugby? Pourquoi l'arbitre il est habillé en noir? Pourquoi les joueurs, pourquoi on joue à 15? Pourquoi il y a des numéros dans les dos des joueurs? Pourquoi les femmes ne jouent pas au rugby encore beaucoup? Vous verrez, on va parler beaucoup femmes. Je vous parlerai aussi de tas d'anecdotes. On parlera de Jules César, on parlera de Napoléon, on parlera du maréchal Pétain. Parce que tout ça, vous allez voir, c'est un lien, aussi incroyable que cela puisse paraître, avec le rugby. Alors, on va commencer. Donc, bien entendu, à la fin, je vous laisserai un jeu de questions-réponses et puis je vous montrerai certains documents. Le voyage dans le temps, il va remonter très très loin parce que je vous amène au temps des chasseurs-cueilleurs. Oh, on est presque 15 000 ans avant Jésus-Christ. Bien entendu, on n'a aucune trace concrète archéologique de cette période. Par essence, les chasseurs-cueilleurs se déplacent, sont nomades, ils poursuivent les gibiers ou ils voyagent selon les saisons. Donc ils ne peuvent pas transporter d'objets lourds, ils laissent sur place les meules, ils ne connaissent pas la poterie et tous les peaux de bêtes qu'ils devaient porter, les vêtements de l'époque ont disparu. Néanmoins, on peut imaginer que, contrairement à ce que l'on peut penser, maintenant on sait d'après les préhistoriens que les chasseurs-cueilleurs ne consacraient pas 100% de leur temps à la lutte pour la survie, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Ils avaient beaucoup de temps libre en fait. Ils avaient beaucoup de temps libre et ce temps libre, ils devaient le consacrer à deux choses, la religion, et j'y reviendrai, et sûrement les jeux. Les jeux qui sont toujours étroitement liés à la religion. Et on peut imaginer que les enfants préhistoriques, que les hommes préhistoriques ont rapidement joué. Et le geste naturel qui consiste à se lancer un os, une pierre, un objet plutôt sphérique, a dû être, dès le début de l'histoire de l'humanité, une des activités humaines essentielles. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'à partir du néolithique, le néolithique, c'est cette vaste période qui va de moins 8000 ans à moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Moins 2000 ans, c'est l'apparition de l'écriture, donc on va rentrer dans l'histoire. Donc le néolithique, on est toujours dans la préhistoire. Alors, les hommes néolithiques, par contre, nous ont laissé des traces archéologiques extrêmement complexes et fécondes. Et ils ont des rites funéraires déjà complexes, ils ont des cités urbaines, des murailles, et surtout des temples. Des temples, parce que la religion, d'entrée, a été un fait humain. Des temples qui tournent autour des divinités du néolithique. Et qu'est-ce que les hommes ont adoré en premier sur cette terre ? Ce sont à la fois les divinités terrifiantes, comme le vent, la neige, le froid, les éruptions volcaniques, les ouragans, et puis les divinités positives, la lune, et surtout le soleil, et on y reviendra. Et je vous expliquerai pourquoi les ballons sont ronds, en tout cas de manière sphérique. Donc ils ont adoré le soleil et ils ont construit des temples. Et on en a partout, de Stonehenge jusque chez les Mayas, les Aztèques et tous les cinq continents. Et donc, on peut penser qu'eux aussi ont pratiqué, bien sûr, des rituels sacrés, sûrement à base de jeux de balle. Mais ça, c'est des hypothèses. On arrive à moins 3500 ans avant Jésus-Christ. Et là, on a les premières traces concrètes, et je vous les montrerai tout à l'heure, des jeux de balle. Les premières activités sportives, physiques, avérées de l'histoire de l'humanité, en dehors des peintures rupestres de Lascaux ou des grottes d'Altamira, c'est la vallée des rois. C'est les temples et les tombes des pharaons, en particulier à Beni Hassan, où là on a découvert plusieurs choses. D'abord on a découvert un jeu de balles cavalières, je vous en reparlerai tout à l'heure, et puis on a trouvé surtout dans les tombes égyptiennes des pharaons, des balles, plus ou moins sphériques, en feuilles de palmier. À l'intérieur, il y avait des boyaux de chats concassés pour les faire un peu plus rebondir. Il est difficile de connaître les règles exactes de ces jeux de balles. Les historiens s'attachent à dire que c'était des rites de fécondité, toujours dédiés au soleil. Pendant au retour du printemps, quand les blés commençaient à germer, on imagine que les prêtres prenaient ces balles avec la main ou le pied et les jetaient dans les champs de blé de la Haute-Égypte pour fertiliser les champs de blé de la Haute-Égypte. Sur la fresque de Beni Hassan, on retrouve bien sûr le jeu de la balle cavalière. Moi, quand j'étais petit, dans ma Cerdagne natale, j'allais dire, on jouait à la balle cavalière. La balle cavalière, certains d'entre vous ont peut-être joué à ça. On se met sur les épaules de son camarade et puis on essaie de se lancer une balle. Et quand la balle tombe, on devient cavalier à son tour. Et chez les Romains, on portait un bonnet d'âne. Et c'est pour ça que la tradition du bonnet d'âne est restée dans les écoles. C'est issu du jeu de la balle cavalière. Donc on sait que les Égyptiens jouaient déjà à des jeux de balle dès 3500 ans avant Jésus-Christ. Bien entendu, au contact des Égyptiens, d'autres peuples, les Phéniciens et les Crétois, puis les Grecs, ont aussi pratiqué de nombreux jeux de balle, et en particulier les Grecs. Les Grecs se sont adonnés à toute une multitude de jeux de balles, et là les traces sont assez précises. On en retrouve chez Homère, dans l'Odyssée, puisque quand Ulysse fait naufrage dans l'île de Corcyre, qui était aujourd'hui identifiée comme l'île de Corfou, il est inanimé au bord d'un ruisseau, et Nausicaa, la princesse, vient le découvrir parce qu'elle était en train de jouer à un jeu de balles avec ses compagnes, et la balle tape contre la tête de Ulysse, c'est comme ça qu'elle découvre Ulysse. Aux funérailles d'Achille, dans l'Iliade, aux funérailles de Patrocle, le cousin, l'ami d'Achille, il y a des jeux funéraires qui sont organisés, et en particulier un jeu de balle. Un jeu de balle qui se joue à la main, où il s'agit de jeter en l'air le plus haut possible la balle, comme pour implorer les divinités. Les Grecs jouaient à des jeux extrêmement violents aussi, le plus connu étant l'épiskyros. Skyros en grec, ça veut dire balle. C'était un jeu extrêmement violent qui servait d'entraînement militaire aux guerriers grecs, qui se jouait à peu près à 12 contre 12, avec une ligne centrale, deux lignes de but, et il s'agissait de faire passer le ballon à la main de l'autre côté du but adverse. Tous les coups étaient permis. C'était un jeu extrêmement violent, réservé plutôt aux militaires. Et l'épiscirrhose, vous allez voir ce qu'il va devenir plus tard, va devenir la soule en particulier. Mais il y a d'autres jeux de balle qui étaient aussi pratiqués par les Grecs. L'épiscirrhose, il y avait aussi la phéninde, qui était une sorte de rugby aussi, où il fallait pousser la balle les uns contre les autres. Et toutes ces traces, on les trouve dans tous les musées archéologiques nationaux, régionaux du Péloponnèse, et aussi dans les autres musées archéologiques de la planète. Bien sûr, le monde romain s'est beaucoup inspiré sur le plan politique, culturel, religieux du monde hellène. Et donc, l'épiscirrhose a été adopté par les Romains sous une forme encore plus codifiée qu'on appelait l'arpastum. L'arpastum, ça vient du grec arpasto, qui veut dire j'arrache. Là aussi, le nom veut dire qu'il fallait sûrement arracher la balle de l'adversaire. C'était un jeu aussi qui a été extrêmement codifié par les Romains. À 12 contre 12, 13 contre 13, il était pratiqué par les légionnaires avec des balles extrêmement dures. On sait que Jules César a joué à l'arpastum. Les traces de l'arpastum sont dans les écrits de Cicéron, de Galien, de tous les grands écrivains romains de l'époque. La balle devait être très très dure puisque Cicéron, dans un de ses écrits, raconte l'histoire d'un homme qui était en train de se faire raser la barbe chez un barbier à Rome et qui, en recevant une balle d'arpastum sur la tête, en est mort. Vous voyez, quand vos enfants cassent un carreau, c'est pas bien grave, hein, finalement. Donc l'arpastum était un entraînement militaire extrêmement dur, extrêmement violent. Et ce sont les légions romaines qui ont disséminé l'arpastum, bien sûr, dans tout le nord de l'Italie, puis après en Espagne et puis en Gaule, et qui sont arrivés jusqu'en Grande-Bretagne, où ce jeu de balle extrêmement violent qui était l'arpastum va rentrer en contact avec des jeux de celtes locaux, mais j'en reparlerai tout à l'heure. On est toujours sur le pourtour méditerranéen. Il faut que je vous parle d'autres civilisations. On sait aussi que les Chinois, 2000 ans avant Jésus-Christ, pratiquaient aussi des jeux de balles, à la main ou au pied, avec des balles et des ballons plus ou moins sphériques. Je reviendrai là-dessus. Les ballons étaient soit en vessie de cochon, ou en vessie de porc, que l'on gonflait d'air, ou que l'on remplissait de foin ou de paille. Ils jouaient en particulier à un jeu qui s'appelait le tsu-tsu, qui était aussi un entraînement militaire, réservé militaire, extrêmement violent, et les perdants étaient fouettés à coups de lanière. Marco Polo, dans ses écrits, parle de ces jeux de balles qui étaient pratiqués par les Chinois de l'époque. Les Japonais aussi pratiquaient un jeu de balles qui était beaucoup plus pacifique, qui s'appelait le Kemari, qui remonte environ à moins 500 ans avant Jésus-Christ, qui se jouait à la fois avec les mains et à la fois avec les pieds, sur un terrain rectangulaire qui représentait la plateforme terrestre. À chaque angle, il y avait un érable ou des cerisiers, et il s'agissait de faire passer le ballon avec les mains ou avec les pieds dans un cercle situé à 9 mètres au-dessus du sol, accroché à un bambou, un mélange de rugby, football, basketball. L'Europe, la Chine, le Japon, l'Australie aussi. On sait que bien avant l'arrivée des colons britanniques, quand les colons britanniques, j'y reviendrai tout à l'heure, sont arrivés en Australie, ils ont trouvé des jeux de balles ancestraux, dont un qui s'appelle le Marnegrook, qui est toujours pratiqué. Si vous tapez sur Internet ce soir Marnegrook, vous verrez qu'il y a une fédération de Marnegrook en Australie qui était pratiquée par les indigènes australiens, et qui était aussi un jeu qui se jouait avec les mains et qui était disséminé sur des ersatz de jeux de rugby dans les îles Fidji, dans le Samoa et le Tonga. Et j'y reviendrai, ce qui explique la rapidité avec laquelle ces peuples, très éloignés de l'Angleterre, sont rapidement convertis au rugby, et d'où aujourd'hui la puissance du rugby en Nouvelle-Zélande, au Tonga, au Fidji, dans les Samoa, y compris en Australie, puisqu'il y a eu à la fois un mariage entre le rugby importé par les Anglais et puis les traditions locales guerrières qui jouaient à ces jeux de balles ancestraux. On va passer de l'autre côté du continent, de l'autre côté de la Terre. On va aller en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Alors je vous raconterai tout à l'heure l'histoire absolument extraordinaire de l'ancêtre du football et du rugby dans les peuples mayas et aztèques, puisque ces civilisations, bien avant l'arrivée des Espagnols et près de 1000 ans avant Jésus-Christ, et sur tous les sites précolombiens, il y a bien sûr un temple, les pyramides à échelons, les autels, et bien sûr les jeux de balles, ce qu'on appelle là-bas les jeux de pelote, qui s'appellent chatli chez les aztèques et pocatoc chez les mayas, qui était un jeu rituel extrêmement complexe, extrêmement violent. L'arbitre était un prêtre. Vous verrez que dans toutes les civilisations, l'arbitre est toujours un prêtre au début, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont encore habillés en noir, puisqu'au 19e siècle, les arbitres au rugby chez les Anglais, c'était le pasteur protestant. Mais j'y reviendrai. C'était la même chose pour chez les Mayas et les Aztèques. C'était un jeu rituel qui se jouait environ à 6 contre 6. Les joueurs étaient extrêmement carapassonnés. La balle était en caoutchouc, puisque le peuple, les Olmèques, qui en langage nahuatl veut dire le peuple du maïs, connaissaient la gomme arabique, le latex. Donc ils jouaient avec une balle extrêmement lourde, un latex qui pesait à peu près 2-3 kilos. Et il s'agissait de faire passer, je vous montrerai les documents tout à l'heure, cette balle dans une ronde de bosse, c'est-à-dire un anneau en pierre, qui était soit horizontalement, soit verticalement, comme au basket, seulement avec les articulations. Le jeu était très très violent. Le sang coulait parce que il servait à régénérer la terre pour implorer les divinités. Et à la fin de la partie, le capitaine vaincu avait la tête coupée. Aujourd'hui, c'est plutôt la tête des entraîneurs que l'on coupe. Je ne sais pas si vous avez remarqué. À l'époque, c'était la tête du capitaine vaincu. On raconte que sur certains grands temples précolombiens, à Teotihuacan, on a vu ça, on a lu ça dans les codex que nous ont laissés les conquistadors espagnols, sur certains stades, on sacrifie jusqu'à 10 000 victimes sur le terrain de Tchatli pour que le terrain devienne entièrement rouge pour faire renaître le soleil, puisque les peuples mayas et aztèques pensaient que le soleil, quand il se couchait, pour le faire renaître, avait besoin du sang vital qui était le sang humain, d'où les sacrifices humains qui étaient pratiqués par ces peuples. D'ailleurs, les conquistadors espagnols ne s'y sont pas trompés, parce que quand ils ont débarqué donc en Amérique centrale, passé le moment d'émerveillement, parce qu'il faut se rendre compte que ces cérémonies de rugby précolombien étaient fantastiques. Il y avait près de 15 à 20 000 spectateurs qui étaient installés sur les gradins des pyramides. Il y avait un spectacle féerique, beaucoup de couleurs, des trompettes, de la musique, comme aujourd'hui. Au début, ils ont été émerveillés, ils ont applaudi, et petit à petit, ils ont tout fait pour éradiquer ces pratiques, parce qu'ils se sont rapidement rendu compte que c'était des rites religieux païens contre la religion catholique, et c'est pour ça qu'ils ont interdit pendant quelques années après leur arrivée, les jeux de balles méso-américains. En Amérique du Nord, pareil, bien avant l'arrivée du Mayflower en 515 dans la baie du Massachusetts, les puritains anglais qui vont arriver avec la Bible, les traditions anglaises et une petite balle de rugby, mais j'y reviendrai, dans la cale de leur navire, vont rencontrer des jeux de balles pratiqués par les Sioux, les Cheyennes. Je vous montrerai des images tout à l'heure, en particulier un qui s'appelait le Pachatawatog, nom qui veut dire « il joue à la petite guerre au pied ». C'était un match de rugby qui se jouait à 500 contre 500 sur un terrain qui mesurait plusieurs kilomètres carrés et qui remplaçait la guerre, en fait, au sens propre. Et c'est pour ça qu'il y avait parfois des blessés graves et des morts sur le terrain. Et on portait des masques. Les guerriers de chaque camp, plutôt que de se massacrer, on organisait une partie rituelle entre les 500 meilleurs guerriers de chaque tribu, et ils portaient des masques. Pourquoi ils portaient des masques? Parce qu'il y avait une troisième mi-temps aussi. Il y avait un grand repas qui scellait la réconciliation. D'où l'intérêt des masques pour pas être reconnu quand on avait tué un adversaire. Donc vous voyez que dans pratiquement tous les continents, on a joué à des jeux de balles, y compris les Esquimaux ou les Inuits qui pratiquaient des jeux de balles qui s'appelaient l'Atoyortok ou l'Aksatuk, qui étaient des jeux de balles sur neige, sur glace, qui se jouaient avec un ballon rempli de lichen et de peau de cachalot ou de phoque, et qui servaient de jeux de balles. Si je reviens sur le bassin méditerranéen avec l'Arpastum, donc les légions romaines commencent à disséminer le jeu de balles dans toute une partie de l'Europe. En Gaule, l'Aspartum va devenir la Soule, Solus Ludarum au début, sachant que le mot Soule a deux origines possibles, soit Solea, qui veut dire pied, sandale, soit plus probablement Sol, soleil. Ça fait plusieurs fois que je vous parle du soleil, il faudra que je revienne là-dessus et sur la forme de ce ballon. Au contact des tribus celtes, des Calédoniens, d'Écosse, sachant que les Romains ne sont jamais allés en Irlande, n'ont jamais traversé cette partie de l'océan, ils sont restés en Grande Bretagne. Donc, les légions romaines vont se retrouver au contact de jeux celtes, le hurling, le knapan de Pays de Galles, qui étaient aussi des jeux celtes dédiés à la divinité du soleil, sachant que les Celtes, physiquement, enterraient à la fin de la partie, le vainqueur avait le droit d'enterrer la balle dans son terrain. Physiquement, on creusait un trou et on mettait la balle dans le terrain du vainqueur. Alors ça, j'en ai eu l'épreuve cet été, parce que je suis allé en Irlande pour la première fois de ma vie cet été, et au musée national d'Irlande, je savais que ça existait, mais je l'avais pas vu de mes propres yeux, et donc j'ai vu en Irlande ces balles d'or, en forme plus ou moins de balles de rugby, que les Celtes enfouissaient dans les tourbières pour rendre le sol plus fertile et implorer toujours la divinité du soleil. On sait aussi dans un écrit par les Anglais que 50 ans après Jésus-Christ a sûrement eu lieu la première rencontre de rugby international entre les légions romaines et des tribus celtes. Les Anglais nous disent que ce sont eux qui ont gagné, mais ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Au contact une fois que les légions romaines vont partir, la Soule, en France, dans les communautés rurales, va connaître un engouement fabuleux. La Soule était l'ancêtre du rugby, qui se jouait aussi avec une outre remplie de foin ou d'air, une vessie de porc ou une vessie de vache, parfois une vessie de chien, que l'on se disputait entre villages rivaux. Parfois la composition des équipes était assez étonnante, c'était les hommes célibataires qui jouaient contre les hommes mariés, toujours pour vaincre la stérilité et implorer la fécondité. C'était un jeu qui était extrêmement lié au soleil, même si c'est les prêtres qui donnaient le coup d'envoi, et on voit beaucoup de gravures du Moyen-Âge où le prêtre soulève le ballon devant le porche de l'église en le montrant au soleil. Et à la fin de la partie, en Bretagne, ou dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest, on enterrait aussi physiquement le ballon dans la terre. On le plantait, mais physiquement, pour faire germer les récoltes. En Angleterre, les jeux de balles vont connaître un engouement phénoménal à partir du Moyen-Âge. Et il va se produire quelque chose à la fois en France et puis en Angleterre à partir du XIIe et XIIIe siècle. Les rois, les nobles vont interdire sévèrement dans toute l'Europe, par des édits, les jeux de balles. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça, c'est une histoire fabuleuse. À partir du XIIe siècle, les rois d'Angleterre vont édicter des édits qui interdisent, sous peine d'emprisonnement, voire de condamnation à mort, les jeux de balles. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était la jeunesse qui s'adonnait à ces jeux de balles devenait extrêmement violente. Elle cassait les vitraux dans les cathédrales et dans les temples. Et puis surtout, à l'époque, la rivalité entre la France et l'Angleterre était déjà forte, on est dans la guerre de 100 ans, et on avait besoin de gens qui savaient manier l'épée, la lance et monter à cheval, tirer à l'arc ou à l'arbalète pour les Français. Et pendant que les jeunes jouaient à ces ancêtres du rugby, qu'on appelait à l'époque le fussball ou le football, ils ne s'entraînaient pas à la lance, à l'escrime, à l'arc. Donc pour en faire de bons guerriers, on a interdit tout simplement les jeux de balles à la fois en Angleterre et à la fois en France pour former des guerriers. Et c'est là que la passion pour les jeux de balles que je vous expliquerai tout à l'heure a dû être beaucoup plus forte que toutes les interdictions, parce que malgré les édits, malgré les emprisonnements, malgré les condamnations à mort, en catimini, pendant des décennies, voire deux siècles, les jeunes gens ont continué à jouer au rugby. Et sous la contrainte populaire, les rois ont dû lever des édits. Et c'est Cromwell qui a remis au goût du jour le rugby en Angleterre. Et Cromwell, qui était un gaillard énorme, de près de 1m95, était un grand joueur de rugby. Et c'est sous l'influence de Cromwell et de ses successeurs que le rugby football, qu'on va appeler aujourd'hui rugby football à l'époque, a continué à se développer en Angleterre. Et à partir du XVIIe siècle, il va se passer un phénomène très différent entre la France et l'Angleterre, c'est qu'une Angleterre sportive va s'opposer à, malheureusement, une France paresseuse et non sportive. Pourquoi ? C'est que l'Angleterre commence à émerger comme une puissance mondiale, commence à envoyer ses petits lords et ses petits aristocrates conquérir le monde, et donc dans les collèges aristocratiques, dans les écoles où l'on forme l'élite de la jeunesse anglaise, on a besoin de lords costauds, en pleine santé, et donc on leur fait pratiquer énormément de sport pour qu'ils soient en bonne santé. Et certains disent qu'on a perdu Waterloo d'ailleurs plus tard à cause de ça. C'est que les sportifs anglais avaient déjà battu les paresseux français. Pendant ce temps, et Voltaire dans ses lettres anglaises en parle, et Rousseau aussi, stigmatise la paresse française, des nobles en particulier, qui ne s'adonnent pratiquement à aucun sport, même si on sait que des rois français ont pratiqué la soule, puisque Ronsard aussi a pratiqué la soule. On a des poèmes de Ronsard où il parle de la soule. Mais donc une Angleterre sportive va s'opposer à une France paresseuse, et il faudra attendre le début du XXe siècle seulement pour que la France, enfin, sous la pression du baron Pierre de Coubertin, se remette à pratiquer les sports. Et à partir du XVIIIe et du XIXe siècle, les Anglais, qui là ont conquis le monde grâce à leur armée, grâce à leurs prêtres, grâce à leurs pasteurs, grâce à leurs fonctionnaires, vont codifier et moderniser les jeux de balle tels qu'on les connaît aujourd'hui. Alors juste un petit rappel historique, de 1850 à 1906 à peu près, l'Angleterre va dominer le monde. 1906, c'est l'année où meurt la reine Victoria, qui est sûrement la plus grande souveraine qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité, puisqu'à la mort de la reine Victoria, c'est-à-dire en 1906, un quart de terre émergée et un quart de la population mondiale était anglaise. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a connu un empire aussi grand. Quand je parle d'empire, je parle bien d'un seul pays, puisqu'avant la création du Commonwealth, dans les années 20, l'Angleterre était un seul pays, un seul empire qui dominait à peu près un quart de la planète. L'empire britannique, malgré la perte des colonies américaines et canadiennes, dominait pratiquement toute l'Asie, toute l'Afrique orientale, donc de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud. C'est pour ça qu'on disait « from Cairo to Cape », du Caire au Cap. Et puis après le Pakistan, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, toutes les îles Fidji, Samoa, Tonga, jusqu'en Australie. Et c'est pour ça que cette partie du monde, y compris de l'Afrique orientale, d'où la présence de la Namibie, qui joue peu au football mais joue au rugby, alors que l'Afrique occidentale, sous influence française, va se convertir plutôt au foot, c'est comme ça que le rugby a été semé par les fonctionnaires et les militaires anglais dans toutes les colonies, ce qu'on appelait les dominions chez les Anglais, jusqu'en Australie. Donc, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, plusieurs phénomènes vont se produire qui vont faire transformer les jeux de balles qui étaient essentiellement ruraux en des jeux que je vais qualifier de plus industriels. Ça va être la phase d'industrialisation de l'ancêtre du football et du rugby. Pourquoi ? Parce que on va commencer à découvrir la commercialisation des événements. On va commencer à structurer les règles. On va faire rentrer l'argent. Et puis, il va y avoir une invention, qui est l'invention du caoutchouc. Goodyear va inventer la vulcanisation. Et donc, ces balles qui étaient plus ou moins sphériques, les balles n'étaient ni rondes ni ovales. Elles étaient plutôt de la forme d'une prune aplatie. Un peu ronde, mais un peu aplatie sur un dessus, parce que c'était là où on enfonçait un tuyau de pipe pour les gonfler, et après on faisait le nœud, et donc ça rendait la balle un peu comme de la forme d'une prune. L'invention du caoutchouc industriel va permettre de créer des ballons plus ronds ou des ballons plus ovales. Et jusqu'à 1846, le destin du rugby et du football sont les mêmes. C'est le même sport. Il n'y a pas de règles précises. Et en 1846, on commence à codifier les règles du rugby-football. Et on fait ça dans la ville de Rugby. La ville de Rugby, c'est une ville qui est à 150 km à l'ouest de Londres, où il y a un collège. Et à la tête de ce collège, il y a un proviseur, c'est pas comme ça qu'on l'appelle en Angleterre, mais on l'appellerait comme ça en France, qui s'appelle Thomas Arnold. Et ce directeur de collège va avoir une influence capitale sur le football et le rugby mondial, puisque c'est lui qui va codifier pour la première fois en 1846 les règles du football. Et c'est Thomas Arnold va faire quelque chose qui est exceptionnel. Il va rendre cette discipline obligatoire à l'école. Il va rendre la discipline du rugby-football obligatoire pendant près de 120 ans en Angleterre, et c'est pour ça que les Anglais ont beaucoup pratiqué le football et le rugby, parce que, à la différence des Français où ce n'est qu'un sport, une activité ludique ou sportive en Angleterre pendant 120 ans pour les garçons et pour les filles. Ça a été une discipline scolaire obligatoire comme les mathématiques, comme l'anglais ou comme la biologie. C'est pour ça que je vous expliquerai tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle aussi les Anglais ont résisté pendant des décennies à toute forme de professionnalisation des sports, et en particulier du rugby, mais j'y reviendrai. Vous remarquerez donc que quand je vous parle de 1846, ça veut dire que la légende, mais je vous en parlerai tout à l'heure, qui consiste à penser que en 1823, William Webb Ellis a inventé le rugby, est totalement fausse. C'est une fable, ça, inventée par certains joueurs de rugby, mais en fait la légende est fausse, parce que quand en 1823 William Webb Ellis se saisit de la balle à la main, à l'époque les règles n'étaient pas stipulées et le rugby football était un hybride qui se jouait à la fois à la main et avec les pieds. C'est une fable qui a été inventée par un journaliste, qui a été repris après par certains historiens. J'en parle dans mon livre. Le personnage a vraiment existé, mais c'est plutôt Thomas Arnold qui a codifié le rugby. Pendant 20 ans, un peu moins de 20 ans, le rugby-football donc va rester à peu près un sport identique. Et puis à partir de 1863, ça c'est la vraie date de création du football, en 1863, des étudiants de Cambridge francs-maçons, se réunissent à la taverne des francs-maçons à Cambridge pour aller boire une bière, et ils décident de codifier et de sceller définitivement la séparation entre le rugby et le football en écrivant sur un bout de papier les règles du football, où il est interdit, dans ce jeu qu'on va appeler maintenant le football, de se servir des mains. Et en 1863 de la même année, en octobre, quelques mois plus tard, est créée par ces mêmes étudiants la première fédération sportive au monde, la fédération l'Association Football Association, qui est la fédération de football. D'ailleurs, Football Association, quand les gens étaient membres de cette association, on disait ce sont un Football Association Player, Association Player, A Soccer Player, Soccer. C'est de là que dérive le nom soccer, de la création de la FA. Bien entendu, les collégiens qui voulaient continuer à porter le ballon avec les mains se sont retrouvés un peu frustrés à partir de 1863. Et donc en 1871, des étudiants d'Oxford, de Cambridge, eux écrivent sur un bout de papier les règles de ce qui va devenir le rugby pur, où ils interdisent le coup de pied à l'adversaire, mais ils gardent le ballon à la main. Donc deux dates, il n'y a que deux dates à retenir dans cette conférence. 1863, c'est la création du football. 1871, c'est la création du rugby. Même s'il va falloir attendre 1896 pour que le ballon devienne totalement ovale. À partir de cette époque, le football et le rugby vont bien sûr avoir deux destins très très différents. Ils vont être colportés toujours par les militaires et les fonctionnaires anglais dans le monde entier. Mais bien entendu, le football a un avantage sur le rugby qu'il garde aujourd'hui encore, c'est qu'on peut jouer au football, quelle que soit la topographie du terrain. On peut mettre deux boîtes de conserve dans un bidonville à Rion ou sur un terrain râpeux en Afrique, et on peut jouer au football. Alors que rugby, il faut de l'herbe, il faut du gazon. Et donc, ça interdit de jouer au rugby quand on n'a pas d'herbe, dans les cités, dans les banlieues, il y a du goudron, dans les bidonvilles de Rio de Janeiro, sur les terrains caillouteux d'Afrique ou sur les prairies gelées de Scandinavie ou d'Allemagne du Nord. D'où la séparation. Et en fait, la séparation entre le football et le rugby dans les collèges de l'aristocratie britannique à la fin du 19e siècle est liée non pas à des légendes comme William Webb Ellis, etc., mais tout simplement à la topographie des cours de récréation. Dans les cours de récréation, où la cour de récréation était pavée, on a plutôt joué au football. Dans les cours de récréation des collèges, où la cour était plutôt gazonnée, ces collèges se sont convertis au rugby. Et petit à petit, le football a conquis la planète, tandis que le rugby s'est retrouvé cantonné simplement dans les anciennes colonies britanniques, sachant que, en Amérique du Nord, je vous en parlerai tout à l'heure, on va réinventer une autre forme de football rugby qui est le football américain, mais je vous en parlerai dans un instant. Le rugby est introduit en France par des étudiants et des commerçants et des négociants anglais, d'abord au Havre, puis à Paris. Et ces étudiants, avec d'autres étudiants français, créent les quatre grands clubs parisiens, le Paris Football Club, le Stade Français, le Racing, qui vont devenir des clubs très très importants. Pierre de Coubertin était lui-même un arbitre à l'origine, un arbitre de rugby, puisque c'est lui qui a arbitré la première finale du championnat de France de rugby. De Paris, le rugby va descendre à Orléans. Et puis, des commerçants vont l'introduire à Bordeaux. Et par capillarité de Bordeaux, le rugby va descendre dans le sud-ouest, dans les campagnes. Il va venir jusqu'à Toulouse, puis jusqu'à Carcassonne, Perpignan, jusqu'à Béziers. La frontière s'arrête un peu, pour moi, après Agde, Lézignan, la Sèvre. Parce que, de l'autre côté, le rugby va avoir du mal à franchir et la Loire et le Rhône, parce que le football est déjà implanté dans les cités industrielles, dans les cités ouvrières. Et donc le rugby va se cantonner dans les communautés rurales du sud-ouest. La France du début du XXe siècle, dans cette partie dans ces régions-là, est extrêmement rurale. Et donc le rugby va devenir le sport du sud-ouest. En particulier, il va descendre jusqu'à Bayonne, où les jeux traditionnels, les athlètes des jeux de force basque, le lancer du tronc, le tirer à la corde, vont adopter ce jeu qui est extrêmement viril. Et il va y avoir un côté politique à la question. C'est qu'une France, la France qui ne parle pas la langue d'Oï, la langue de Paris, ces régions du sud-ouest, le Quercy, le Béarn, l'Auvergne, le Languedoc, le Roussillon, et le pays catalan et le pays basque, rebelle au centralisme parisien, rebelle à la langue d'Oï, va faire du rugby presque un étendard politique. Et il faut bien comprendre que dans les régions du sud-ouest, et j'en reparlerai après quand je vous parlerai des femmes et des jeux de balle, bon, le rugby a plus été lié dans ces régions à un mode de vie, à une expression politique ou sociale, qu'à un divertissement purement sportif. C'était un jeu qui était lié, bien sûr, à la langue, aux communautés rurales, à la bonne chère, à la vigne, à la tauromachie, parfois avec des côtés machistes extrêmement déplaisants, mais j'y reviendrai dans un instant. Et le rugby va acquérir une grande notoriété dans cette partie des régions françaises. Et le rugby est essentiellement encore, malgré quelques grands clubs comme Nice, Bourgoin ou Paris, essentiellement un jeu pratiqué dans le sud-ouest. Séparation entre le football et le rugby. Malheureusement, à l'intérieur même de la communauté rugby, il va y avoir une autre scission entre le rugby à 13 et le rugby à 15. Le rugby à 15, en Angleterre, on appelle ça la rugby union. Le rugby à 13, en Angleterre, on appelle ça la rugby league. Au début du XXe siècle, il va se passer un phénomène sociologique extrêmement important. C'est que le sport était réservé aux aristocrates et aux lords britanniques. En tout cas, à la gentry britannique. La gentry, c'est la petite noblesse anglaise qui, dans les collèges qui formaient l'élite britannique, ont pratiqué des sports qui étaient réservés aux aristocrates. Mais petit à petit, avec la démocratisation de la société, les ouvriers, les gens du peuple ont voulu aussi s'adonner à ce sport. Et il y a eu une première scission à l'intérieur des sports pratiqués par les Britanniques. Les sports individuels amateurs ont été réservés à l'élite de la haute aristocratie. L'escrime, l'équitation, le tennis, l'athlétisme. Les sports amateurs collectifs, comme le rugby, vont être réservés à la petite noblesse. Et les sports professionnels, parce que pour jouer, pour devenir fort, il faut arrêter de travailler, vont devenir professionnels réservés aux ouvriers. Très rapidement, les ouvriers et le peuple va prendre le football, parce que le football va devenir très rapidement professionnel. Et les ouvriers et le peuple anglais qui voulait pratiquer le rugby a dû se mélanger avec l'aristocratie. Et pour que l'aristocratie ne se mélange pas avec le peuple, les aristocrates ont inventé une règle très simple, c'est qu'il est interdit de faire payer les billets pour aller voir des matchs de rugby. Ce qui empêchait aux ouvriers anglais de pratiquer ce sport, parce qu'il fallait qu'ils arrêtent de travailler pour s'entraîner, et comme ils n'étaient pas payés, ils ont créé leur propre fédération et ils ont inventé le rugby à 13. Ils ont inventé le rugby à 13 qui, dès le début, a été professionnel, et c'est pour la même raison qu'en Afrique du Sud et surtout en Australie, on a inventé aussi le rugby à 13 pour pouvoir être payé. En France, l'histoire elle est encore plus incroyable. À partir des années 30, le rugby commençait à devenir populaire, mais le rugby à 13, qu'on appelait à l'époque le rugby à 13, est devenu encore plus populaire. C'était la montée du Front Populaire, la montée de tout le courant socialiste, et très rapidement, le peuple de gauche de l'époque s'est mis à jouer au rugby à 13. Et petit à petit, le rugby à 13, à partir de 1935, 1936, 1937, 1938, est devenu beaucoup plus populaire en nombre de pratiquants, de spectateurs, que le rugby à 15. Ce qui posait, bien sûr, un problème aux 15istes. Et d'ailleurs, la première victoire d'une équipe française contre une équipe anglaise dans les sports collectifs, c'est l'équipe de rugby à 13. Cette montée du rugby à 13 en France était très très importante, et il y a eu la guerre. Et le ministre des Sports du maréchal Pétain, qui était quelqu'un d'extrême droite, bien entendu, pour couper pied au Front Populaire et aux socialistes, a fait voter, en décembre 1941, à Vichy, par le maréchal Pétain, un décret interdisant le rugby à 13 en France. Vous vous rendez compte, on est quand même en 1941, je peux vous dire, on a d'autres problèmes à fouetter que ça. Il y a les lois raciales viennent d'être votées, on est en pleine occupation allemande, on est en train de commencer à parler de l'holocauste juif, on a une masse de problèmes, et le maréchal Pétain est en train de signer un décret comme quoi il est interdit de pratiquer le rugby à 13. Tous les biens des 13istes sont confisqués, on confisque les stades, les budgets, les clubs, on met les joueurs sur liste noire. Et ce décret, à la Libération, a été laissé, et on a oublié d'enlever le décret, et c'est pour ça qu'en France, jusqu'en 1991, il était interdit de parler de rugby à 13, et donc on parlait de jeu à 13, et c'est simplement depuis 1991 que quelqu'un au ministère des Sports a pensé, mais dites, si on enlevait ce décret du maréchal Pétain, et donc c'est pour ça que maintenant on a le droit d'utiliser rugby à 13, mais qu'à l'époque, jusqu'à 1991, dans ce pays-là, qui se dit démocrate, on n'avait pas le droit d'utiliser le terme rugby à 13, mais on parlait de jeu à 13. Je voulais vous parler, avant de vous parler des rites et des symboles, de ce qui s'est passé en Amérique du Nord, parce qu'en Amérique du Nord, il s'est passé un autre phénomène, c'est que ni le rugby, ni le football n'ont réussi à s'implanter. Et c'est la seule partie du monde où le rugby et le football restent des sports marginaux. Pourquoi ? À la fin du 19e siècle, les étudiants de Montréal qui jouent au rugby ont introduit à Harvard le rugby. Parce qu'à Harvard et dans les collèges de la côte Est, comme Princeton, le MIT, etc., il pleut beaucoup, il y a des pelouses et des cours de création extrêmement gazonnés, donc on a plutôt évolué vers le jeu à la main. Mais à la fin du 19e siècle, les États-Unis étaient isolés du reste du monde. Ils étaient extrêmement protectionnistes sur le plan politique, sur le plan commercial et surtout sur le plan culturel. Il ne faut jamais oublier que la nation américaine s'est forgée en rupture par rapport à la vieille Europe. Tout ce qui venait de l'Europe étaient rejetés par les immigrants irlandais, russes, slaves, italiens, qui avaient été pourchassés, persécutés par le pouvoir européen. Et donc tout ce qui venait d'Europe, il fallait le rejeter. Et donc ils se sont mis à inventer leur propre sport. Ils ont inventé le basketball en 1896. Ils ont inventé le baseball en le prenant du cricket et en le transformant. Et ils ont inventé le football américain, qui reprenait des règles à la fois du football et du rugby européen pour en faire un sport identitaire, purement américain. Et petit à petit, le football américain et le baseball sont devenus des sports extrêmement populaires aux États-Unis. Malheureusement, ils ne sont pas devenus des sports olympiques. Et c'est pour ça que les Américains, qui ont réussi à tout nous imposer, leur langue, leur culture, leur cinéma et leur musique, n'ont pas réussi à nous imposer leur sport complètement, puisque le football américain est pratiquement pas pratiqué que par eux, le baseball aussi, et le basket est très fortement à connotation américaine. En fait, dans le monde, il n'y a que 3 pays qui jouent au baseball et au football américain, le Canada et les États-Unis, et le pays qui est le plus anti-américain de la planète, Cuba. Et ça, j'ai pas encore trouvé la raison pourquoi ils sont forts au football américain et au baseball, alors qu'ils sont anti-américains. Il faut bien qu'il y ait des énigmes, donc peut-être qu'un jour on découvrira pourquoi. Donc les Américains se sont refermés sur eux-mêmes, ils ont développé leur propre sport, baseball, basket et football américain, qui sont devenus extrêmement populaires, et ce qui fait que maintenant la situation, 100 ans après, est un peu figée. Vous avez le football pratiquement partout, le football américain simplement en Amérique du Nord et Cuba, et le rugby dans le sud-ouest de la France et dans toutes les îles britanniques ou anciennes colonies britanniques. Je vous rappelle ce que disait un célèbre journaliste, le rugby est un sport de voyous pratiqué par les gentlemen, le football est un sport de gentlemen pratiqué par les voyous. Moi, je rajoute souvent, le football américain est un sport de voyous pratiqué par les voyous. Mais ça, c'est une autre problématique. Voilà pour ce court voyage dans l'histoire et dans le temps. Il faut que je vous parle rapidement quand même de certains symboles. Je vous ai dit tout à l'heure que tous ces jeux de balles étaient intimement liés à la religion, au sacré, et en particulier aux divinités solaires. Et c'est pour ça qu'on a joué sur les 5 continents au rugby ou au rugby-football. Pourquoi ? Parce que sur les 5 continents, dans toutes les grandes civilisations, égyptiennes, japonaises, chinoises, grecques, mayas, aztèques, les divinités solaires sont toujours des divinités de premier plan. Et incontestablement, le globe solaire ou la représentation en forme sphérique du ballon est un rituel consacré à la divinité soleil. Ça on retrouve tous ces écrits chez Claude Lévi-Strauss, chez Benveniste, chez Roger Caillois. On sait que le rugby est une allégorie de l'adoration du soleil. Il y a des connotations bien sûr religieuses très très fortes dans le rugby, je vous en parlerai dans un instant. Il y a des connotations aussi psychanalytiques fortes, voire sexuelles. Je vais vous en donner quelques exemples. Il faut savoir que chez les Mayas, le mot qui désignait la sève des arbres, donc le latex, se dit kik, qui était aussi le mot qui désigne le mot sperme en aztèque. Et le marcador, c'est-à-dire la ronde bosse dans laquelle on fait pénétrer le ballon, avait pour nom la matrice féminine. On retrouve cette connotation très sexuelle dans le rugby, planter un essai, faire germer le ballon, prendre son pied, etc. Il y a des connotations extrêmement sexuelles dans ce sport, y compris dans le rugby ou le football. Le rugby et le football aujourd'hui, c'est une cérémonie extrêmement religieuse, mais qui s'est désacralisée avec le temps. Bien sûr, les joueurs, les spectateurs n'ont pas conscience du rituel sacré et religieux qui se pratique lors des grandes fêtes comme la Coupe du Monde, mais on retrouve tous les ingrédients. On retrouve tous les ingrédients. D'abord, comme toutes les religions, il y a les petits et les grands événements. Il y a la messe de tous les dimanches, où il y a peu de pratiquants, mais quand il y a la communion des enfants ou le mariage, on va à la messe. C'est pareil pour les Coupes du Monde. Finalement, il y a peu de spectateurs dans les stades de rugby ou de football, il y en a pas mal, mais tous les dimanches. Mais par contre, quand il y a les Coupes du Monde, ça c'est des grands événements, on y va, même ceux qui n'aiment pas le foot ou qu'on n'aime pas le rugby. Pour jouer, pour faire une cérémonie religieuse, il faut un temple. Un temple physiquement où l'on va s'isoler du reste du monde, où les règles à l'intérieur du temple vont être différentes de la règle sociale. C'est comme ça d'ailleurs que les journalistes ou les commentateurs appellent les stades de rugby. Le temple de Twickenham, le temple d'Édimbourg, le temple d'Ellis Park, physiquement, ou la cathédrale du Stade de France, ou la cathédrale d'Auckland. Il faut un lieu, un temple, c'est le stade. D'ailleurs, j'ai remarqué, quand on étudie la configuration des stades aujourd'hui, ils sont de plus en plus fermés. Au début du siècle, le stade de Maracana, le stade de Montevideo, le stade de Colombes étaient des stades ouverts, très proche de la ville. De plus en plus, que ce soit les stades de rugby ou de foot, on les construit avec des toits, des enceintes extrêmement refermées pour s'isoler du monde. Un temple. Pour faire la messe, il faut un prêtre. Le prêtre, c'est l'arbitre. C'est pour ça qu'il est habillé en noir, parce que physiquement, le prêtre dans les jeux de Kemari chez japonais, chez les Aztèques, chez les Mayas, à la Soule, dans les collèges britanniques, l'arbitre c'était souvent le pasteur ou le prêtre. Et c'est pour ça qu'il est habillé en noir. Il faut bien sûr des officiants. Les officiants, c'est les joueurs. Les joueurs d'ailleurs qui vont revêtir un costume, un maillot, qui a une dimension symbolique extrêmement forte. Et puis il faut des spectateurs, des pratiquants, c'est les gens qui sont dans les stades. Un des éléments clés de toutes les religions, c'est le chant et la musique. Dans toutes les religions du monde, on chante et on joue de la musique. Dans les stades de rugby, la première chose que l'on fait, c'est on chante et on joue de la musique. Parce que la musique est le lien privilégié qui relie les hommes aux dieux. Relié, religéré, religion. Bien entendu, il faut un objet sacré. C'est le ballon. Cet objet sacré qui, au rugby, prend des connotations sexuelles encore plus fortes que au foot, puisque il faut une mêlée où l'on va enfanter presque psychanalytiquement le ballon, on va le couver dans la mêlée, puis il va être expulsé, porté de main en main jusqu'à que l'on plante l'essai, que l'on plante la graine en forme de ballon qui doit faire germer le sol. En Église, il y a des éléments sacrés comme la coupe. Dans pratiquement toutes les compétitions de rugby ou de football, on remet une coupe, qui est l'instrument cultuel, pas culturel, mais cultuel par excellence. Il n'y a que le bouclier de Brennus qui n'est pas une coupe. Mais dans toutes les compétitions, on remet une coupe au vainqueur. Et la coupe, c'est l'élément de Dieu et de Jésus par excellence dans la religion chrétienne. C'est la coupe qui permet de boire à l'immortalité. C'est le Saint Graal que l'on remplit de vin, du sang du Christ, et que l'on boit pour atteindre l'immortalité. Et vous regarderez physiquement que font les joueurs qui remportent la Coupe du Monde. On y met du champagne, on y met des boissons festives, et on se la passe de main en main. Il faut des totems dans les religions, des symboles. C'est le totem des équipes, le kangourou, le wallabies, le coq, la rose. On est extrêmement païen sous des aspects extrêmement modernes, mais parce que le match de rugby est, au sens le plus propre du terme, une vraie cérémonie religieuse. Voilà ce que je voulais vous dire sur le rugby, dans ses aspects, je dirais, presque sociologiques. Je voudrais finir par une comparaison quand même entre le rugby et le football. Moi qui connais bien les deux sports, qui ai pratiqué les deux sports, il est indéniable que le foot a une médiatisation, une popularité beaucoup plus forte que le rugby. Je l'explique tout simplement par la topographie et la topographie technique, et puis aussi par l'accessibilité des règles, parce que le foot a des règles très très simples. Le rugby a voulu toujours, via les Anglais, conserver un peu comme la religion juive des interdits, des tabous, des rites très complexes. Plus une religion est complexe, plus elle survit aux vicissitudes de l'histoire. Par contre, plus elle s'isole des autres. Et c'est ce qu'a fait un peu le rugby, mais sciemment. C'est pour ça que les Anglais ont interdit la présence du rugby aux Jeux Olympiques. Jusqu'à 1987, ils ont lutté farouchement contre toute forme de Coupe du Monde. Jusqu'en 1995, ils ont lutté contre le professionnalisme. Jusqu'à récemment, ils ont lutté contre les Coupes d'Europe. Ils ont lutté pendant très longtemps sur les rencontres internationales. Parce qu'ils voulaient que ce sport reste une discipline scolaire, éducatrice, qui avait des vertus pédagogiques. D'ailleurs, on ne dit pas « je vais inscrire mon enfant » au club de rugby. On inscrit son fils au club de foot. On inscrit son fils ou sa fille à l'école de rugby. C'est une petite différence de vocabulaire, mais très importante. Je vous rappelle que Thomas Arnold avait fait de cette pratique rugbystique une pratique scolaire, une discipline scolaire, avec trois vertus fondamentales qui étaient le respect. Et d'ailleurs, les grands entraîneurs, c'est ce qu'ils disent aux Poussins et aux Benjamins. Respect de l'arbitre, respect de l'adversaire, respect de vos coéquipiers. Et c'est extrêmement important parce que sans le respect des autres, on ne peut pas se respecter soi-même. Et c'est vrai que les vertus pédagogiques, les vertus civiques presque, les vertus de respect du rugby sont beaucoup plus fortes que celles du football, même si je suis un amateur de football. Malheureusement, je crains que le rugby aujourd'hui ne soit à la croisée des chemins. Le rugby est à la croisée des chemins pour une raison simple. Le football a pour lui l'argent, la médiatisation et la popularité, mais il lorgne, il envie au rugby ce côté d'exemplarité, ces valeurs qu'il ne possède pas. Le rugby fait le contraire. Il possédait jusqu'à présent des valeurs d'éducation, d'exemplarité, de solidarité, de générosité. Malheureusement, il est en train de lorgner du côté du football pour l'argent, le professionnalisme et la médiatisation. Or, ça, c'est un grand danger. Ça, c'est un grand danger parce que il faut pas se raconter d'histoire, malgré le succès et l'engouement extraordinaire de la Coupe du Monde de rugby dans beaucoup de pays, et même en France, 14 millions de téléspectateurs lors du premier match, la pratique du rugby est en danger. Soit le rugby deviendra comme le foot, soit il deviendra comme le football américain, qui aux États-Unis n'est pas une pratique. Personne ou très peu de gens pratiquent le football américain. Le football américain est devenu un spectacle. Il y a 1000 joueurs professionnels, pas plus. On ne joue pas au football américain dans la rue. Et c'est devenu un spectacle, comme le cinéma ou comme le théâtre. Ce qui guette le rugby, c'est aussi cette spectacularisation qui fait que malheureusement, j'ai quelques chiffres inquiétants à vous citer, dans certains pays, le rugby est en très très fort déclin. En Écosse, il n'y a pratiquement plus que 50 000 licenciés en Écosse. Le rugby écossais est en crise. La Roumanie, le rugby est en train de mourir en Roumanie. Il n'y a plus que 3 000 licenciés de rugby en Roumanie et 200 clubs, dont aucun n'est capable de se payer un entraîneur. C'est souvent, la Fédération française envoie souvent un entraîneur entraîner l'équipe de Roumanie. À la fin des années 80, il y avait 50 000 licenciés en Roumanie. Pour la première fois l'année dernière, en Nouvelle-Zélande, il y a eu plus de licenciés de football que de licenciés de rugby. En France, le rugby est en grand danger. En France, le rugby universitaire est mort parce qu'on ne peut plus être professionnel et faire des études. D'ailleurs, les entraîneurs du Stade Toulousain sont très inquiets parce qu'ils n'ont plus de joueurs universitaires. Le rugby du Languedocien est en crise. Moi, j'ai vécu sous les clubs grands, et pour ceux qui sont de ma génération, vous vous souvenez les commentaires de Raymond Coudert à la fin de Stade 2 et qui vous parlait de Quillan, Thuir, Carcassonne, Thuès, tout ce que ces clubs ont disparu. Mon club de Poussan, le petit club qui habite près de chez moi, il est en crise. Le rugby languedocien, il ne peut pas vivre sans argent. Donc le rugby est à la croisée des chemins. Ou il va devenir un spectacle extraordinaire, fabuleux, télévisuellement plus facile à filmer que le foot, parce que c'est des gros plans, les joueurs évoluent serrés, mais ça ne serait plus qu'un spectacle avec peu de pratiquants à la base. Et dans ce cas-là, je pense que l'IRB, l'International Rugby Board, aurait échoué. Ou alors le rugby va conserver les liens qui sont en train de se distendre entre la base, entre le nombre, la masse des petits clubs désargentés aujourd'hui mais qui veulent survivre, et puis les grands clubs qui commencent à brasser des millions d'euros. Et puis aussi, il faut être lucide, même si le rugby est un sport formidable, il est donc menacé par l'argent. Il est aussi menacé, selon moi, par le dopage. C'est pareil pour le foot, vous me direz, mais c'est peut-être encore plus vrai que pour le rugby, parce que certaines nations refusent les contrôles ou n'ont pas les mêmes attentions que les Européens sur les pratiques du dopage. Et puis troisièmement, le nombre de blessés augmente. Ça, c'est un problème inquiétant. Parce que alors qu'il y a de plus en plus de professionnels, de plus en plus d'entraînements, de plus en plus de suivis médicaux, le nombre de blessés augmente aussi exponentiellement. Pourquoi ? Parce que les chocs sont extrêmement violents. Le rugby est un sport de combat. De combat collectif, mais c'est un sport de combat. Or, aujourd'hui, ce sont des athlètes surentraînés, surpuissants. Il ne faudrait pas qu'un jour l'intégrité physique des joueurs soit malmenée. Je crains qu'un jour il ne faille introduire le casque à visière faciale comme au football américain dans le rugby. C'est déjà presque le cas. Vous avez vu la plupart des joueurs, vous verrez dans les demi-finales ou la finale, ou là où ça va devenir extrêmement musclé, vont commencer à revertir les casques, sans visière frontale, mais le casque, les armures qu'ils se mettent sous le maillot. Les dangers, c'est l'argent, l'intégrité physique des joueurs, bien entendu, le dopage. Je vous remercie pour votre attention et je suis là pour répondre à vos questions. Merci.